dépit de tous les progrès de la manière moderne, celle-ci n'avait pas réussi à se gagner une place dans la piété domestique. Les somptueuses maisons aristocratiques d'Italie, où l'on amassait des quantités incalculables d'objets précieux, comme de tapisseries, de tentures, de brocarts et nombre d'autres pièces de mobilier, n'abritaient dans leurs chapelles et hôtels privés que de petits tableaux de figures faites à la manière grecque, très gauches, décevants et complètement noircis par la fumée, qui avaient apparemment été placés pour d'autres raisons que stimuler la dévotion ou orner de pareils lieux. Arménine jugeait la situation intolérable car la présence de ces infimes objets peints témoignait non seulement d'un manque de goût, mais aussi d'une attitude presque blasphématoire qui réservait la qualité artistique aux objets profanes et lévitait dans les images sacrées. Je cite, il faut dire, et il faut dire que c'est une grande honte parce que nous, qui sommes tous de chrétiens et de véritables catholiques, dépensons autant pour des pompes tant variées qu'hors mesure, alors que dans les chambres où nous nous reposons et passons la plupart de notre temps dans la plus douce tranquillité, il n'y a pas la moindre peinture de bonne qualité et bien faite. Pour Arménine, cette situation s'avérait tout à fait inconcevable. Il ne pouvait cacher son étonnement et son mécontentement. Selon les théoriciens des arts de la Renaissance, le style grec représentait tout ce qui était radicalement opposé au canon qu'ils avaient inventé, c'est-à-dire une façon de peindre totalement incapable d'évoquer la nature par les biais d'une illusion optique efficace et appartenant à un ailleurs à la fois temporel et géographique, celui de ténèbres médiévales et de l'espace ambigu et douteux de l'Orient byzantin. Comme Guibert l'avait dit, en se basant sur une suggestion de Boccaccio, suivie également par Giglio et Vasari, il n'y avait finalement qu'un mot pour décrire cette manière, rozzo, grossier, utilisé parfois au superlatif, rozzissimo, que l'on appliquait indistinctement à la peinture byzantine et à ses différentes imitations italiennes avant l'exploit de Giotto à la fin du XIIIe siècle. Ces jugements renversaient significativement l'appréciation de presque toutes les cultures du Moyen-Âge à l'égard de l'art pictural de Byzance, exalté comme une tradition dans laquelle les maîtres grecs excellaient, surtout par leur capacité d'imiter la nature. On peut citer à ce propos les mots de Léon d'Osti au XIe siècle, qui considérait les figures réalisées au Mont Cassin par des mosaïstes constantinopolitains comme étant presque vivantes, ou l'histoire racontée au XIVe siècle par Aflaki, de l'autre côté, le biographe de Derviche Tourneur de Cognin, selon laquelle le peintre grec s'amusait à étonner leur public avec des effets de trompe-l'œil. Apparemment, au VIe siècle, plus personne ne valorisait les capacités expressives de la peinture byzantine, à la seule exception peut-être de l'expatrié crétois Dominikos Theotokopoulos di El Greco, qui, dans une note à la Vide Agnologa di De Vasari, remarquait que la tradition de Byzance était bien supérieure à celle du maître florentin dans son habileté à créer des solutions ingénieuses. Pour la plupart, on pensait que ce style était fondamentalement différent et alternatif à la maniera moderna italienne et qu'il s'associait surtout à la destination dévotionnelle de ses réalisations les plus communes et diffusées, notamment les icônes ou panneaux peints à thème religieux. C'est ce que les Grecs eux-mêmes percevaient comme la divota maniera greca. La communauté hellénique de Venise, à la fin du siècle, rejeta tout projet de décoration de son église de Saint-Georges dans un style à l'italienne, celui-ci n'étant pas jugé capable de susciter la piété orthodoxe de façon adéquate. Au-delà du trouble au sujet de l'ambiguïté iconographique des images occidentales et de l'absence de tituli exprimés par les métropolites Georges Melissenos pendant les conciles de Ferrare en 1436, cette prise de position reflétait à la même époque une perception de l'icône comme outil privilégié des pratiques pieuses largement partagées en Italie et en particulier à Venise. Plusieurs voix s'étaient en effet levées pour dénoncer l'incapacité de la manière moderne à susciter l'empathie envers le personnage sacré, ainsi qu'à créer des images que l'on pouvait impliquer dans l'exercice quotidien de la prière et de la dévotion. D'aucuns pensaient que la peinture contemporaine était vulgaire dans la mesure où, comme le dit ce monsieur Ruggiero qui participe au dialogue de Giovanni Battista Giglio, elle avait substitué des figures nues et aux poses tordues au répertoire de formes utilisées par les anciens pour signaler les statuts privilégiés des saints. Les exigences de l'invention artistique l'avaient ainsi emporté sur l'honnêteté, si bien que la peinture religieuse dans les églises ne lui apparaissait pas plus digne de vénération que celle affichée dans les tavernes. Au nom de l'ingegno et de l'art, on s'était trop légèrement défait de ce style dévotionnel jugé lâche, gauche, populaire, ancien, humble et vil, qui caractérisait l'art figuratif précédent la Renaissance. D'autres auteurs, comme Comanini dans Il Figino, renvoyaient explicitement à la tradition byzantine comme forme exemplaire de peinture religieuse, aboutissant avant tout à représenter les figures sacrées de façon à ne pas susciter des pensées lascives. Si l'on en croit Francisco d'Olanda, qui écrit ses Dialogos in Roma vers 1538, Michel-Ange lui-même était convaincu que les anciennes images sacrées, et notamment les icônes de Rome que l'on attribuait à l'évangéliste Luc, se distinguaient par leur capacité à stimuler les observateurs à la dévotion. Il ne s'agissait pas tant d'une question de décence, comme chez les autres auteurs. Il reconnaissait plutôt que les images anciennes, suivant la manière grecque, étaient pourvues d'une forte expressivité associée aux caractéristiques de leur langage linéaire, notamment leur visage grave, ou comme l'explique son interlocuteur Zapata, cette sévère simplicité qu'il y a dans l'ancienne peinture et la crainte inspirée par ces divins yeux qui paraissent surnaturels comme il sied au Sauveur. Ces derniers s'amusaient du fait que Francisco lui-même s'était préoccupé de réaliser une copie de l'image vénérée du Christ conservée dans le Sancta Sanctorum pour en faire cadeau à la reine du Portugal. Ces discussions semblent indiquer qu'un style décrit comme ancien, oriental, simple et populaire était perçu comme plus efficace que la peinture moderne pour stimuler l'empathie de l'observateur pieux vis-à-vis des personnages sacrés, ce qui semble expliquer d'une part les succès ininterrompus des icônes à la grecque en tant qu'outil de dévotion domestique et d'autre part les processus par lesquels plusieurs de ces images furent transformées à l'époque moderne en objets de vénération collective, investis souvent de vertus miraculeuses. Tout cela a été interprété par Hans Belting comme le symptôme le plus évident de la crise de l'image pendant la Renaissance. Dans l'âge de l'art, l'image qui représente le monde sensible par les biais de sa reproduction mimétique n'arrive plus à incarner ou évoquer efficacement la présence de personnages sacrés. Mais l'icône ou le portrait sacré médiéval ne cesse pas d'exister pour autant. Ils sont confinés dans le domaine de la piété populaire. Cette distinction un peu brutale a été développée par Alexander Nager et Christopher Hood dans leur œuvre Anachronic Renaissance, où ils soulignent l'existence d'une forme de peinture alternative, se distinguant par son caractère délibérément anachronique ou exotique, qui ne se fonde pas seulement sur la promotion du culte d'objets anciens, mais aussi sur la création d'images dans un style reconnaissable grâce à son caractère rétrospectif et démodé. De ce point de vue, les icônes dont l'apparence extérieure contraste souvent avec les encadrements somptueux qui les entourent dans leur mise en scène à l'intérieur des églises deviennent des indicateurs matériels d'une dimension historique dans la mesure où, comme le disent les deux auteurs américains, elles mettent en évidence un clivage dans la séquence chronologique de conventions représentationnelles. Il s'agit sans doute d'une interprétation intéressante qui mérite de faire l'objet de réflexions ultérieures. D'autres auteurs l'ont critiqué en soulignant la variété des circonstances et des motivations qui ont pu encourager la diffusion des icônes et des images d'aspect archaïque dans les différentes manifestations du culte à l'époque moderne. Dans le cas des images destinées à la vénération publique et dont la visibilité était souvent limitée, il s'avère parfois difficile d'évaluer à quel point leur style pouvait jouer un rôle déterminant dans la création de leur physionomie cultuelle et légendaire. Plusieurs facteurs, dont les intentions de commanditaires promoteurs, l'affiliation à un groupe ou à une institution religieuse, la rivalité avec d'autres images célèbres, les contingences politiques, même la pure casualité, pouvaient entrer en jeu et exercer un impact sur les processus d'essor culturel dont les phases constitutives nous sont souvent inconnues et ne peuvent être évaluées que dans leur contexte spécifique. Cela dit, reste que Nagel et Hood ont signalé un point important, à savoir le fait que graduellement, on est arrivé à percevoir la manière moderne comme fondamentalement distincte d'une manière grecque, dont les caractéristiques, simplicité des formes, linéarité et un répertoire limité au niveau de schémas iconographiques et compositionnels, en dépit de leur perception en tant qu'élément d'archaïsme, était censée être capable de stimuler la dévotion de façon plus efficace que les images contemporaines. Il vaut la peine de se demander si l'on peut déterminer avec davantage de précision les moments et les contextes historiques où cette perception a commencé à prendre forme. En effet, si l'on regarde le siècle médiéval, on a du mal à comprendre à quel point on était en mesure d'opérer une distinction entre la façon grecque de peindre les images et des conventions plus strictement latines. En général, on reconnaissait à Byzance, pour ainsi dire, un droit de primogéniture. La peinture était l'art grec par excellence, selon les diversis artibus du moins Théophilus au XIIe siècle. Et l'on attribuait à la tradition picturale orientale à thème religieux une forte autorité en raison de sa dérivation présumée des modèles établis à l'époque apostolique, notamment par l'évangéliste Luc, qui, comme le dit un texte romain du XIe siècle, en tant que grec, était naturellement doué dans l'art de couleur. Ces images du Christ et de la Vierge étaient décrites naturellement comme deux portraits du vif, donc ayant une valeur documentaire qui permettait d'intégrer les omissions de Saintes Écritures quant à la physionomie et à l'apparence extérieure de personnages sacrés. En principe, toute image religieuse descendait idéalement de ce prototype célébré, indépendamment des solutions visuelles que l'on pouvait adopter et de leurs affinités plus ou moins évidentes à l'art byzantin. Selon les sermons bien connus prononcés par les dominicains Giordano de Rivalto de Pise sur le parvis de Santa Maria Novella à Florence en 1306, toute forme de figuration sacrée tirerait ses origines du monde grec, y compris la représentation de mages couronnés, qui, comme nous le savons aujourd'hui, était une convention exclusivement occidentale, inconnue à Byzance. Le frère Giordano parlait à seulement quelques mètres de distance de la croix peinte de Giotto, qui était si appréciée par ses contemporains qu'un certain Ricuccio di Puccio décida en 1312 de se faire ensevelir à son pied, étant probablement confiant qu'il bénéficierait ainsi de nombreuses prières inspirées par cette œuvre, se caractérisant par son efficace évocation de la douleur de la passion. Par sa capacité de susciter l'empathie et l'émotion de fidèles, la croix de Giotto partageait la même fonction et les mêmes buts que la peinture religieuse byzantine, et il demeure cependant questionnable qu'elle ait été perçue comme une œuvre de rupture par rapport à la tradition. En effet, si l'on regarde une peinture comme le polyptyque Peruzzi, on remarque que lorsqu'il s'agissait de donner forme à des images qui mettaient davantage l'accent sur la divinité des personnages sacrés, le maître florentin n'hésitait pas à utiliser des formules proches du répertoire byzantin. Dans les trois cercles des literati florentins qui créèrent au XIVe et XVe siècle le mythe de Giotto, la peinture de celui-ci fut décrite comme un parallèle artistique à la nouvelle littérature vernaculaire, se caractérisant par sa nature d'invention intellectuelle, capable, comme le crie Boccaccio, de communiquer des idées sophistiquées au lieu de se contenter d'exciter la curiosité de personnes incultes. Ce qui s'avérait être à l'origine une contraposition au niveau de sensibilité, de l'éducation et du statut social, ne devint une distinction d'ordre culturel également qu'à la fin du Trecento. Filippo Villani, dans les années 1380, remarqua que les anciens panneaux peints et les peintures murales que l'on voyait encore dans les églises témoignaient clairement du fait que leurs auteurs n'étaient point capables d'imiter la nature. Un peu plus tard, vers 1400, Cennino Cennini fut le premier à souligner la dérivation de cet art de la tradition byzantine avec sa célèbre description de Giotto comme celui qui aurait modernisé la peinture en la traduisant du grec en latin. Dans ce contexte, la critique concernait la réduction graphique de formes, l'utilisation de formules simplifiées et surtout le manque d'intérêt pour un art figuratif basé sur l'observation de la réalité et non sous la répétition de schémas. Toutefois, on ne cessait pas de reconnaître de façon plus ou moins explicite le rapport de dérivation morphologique et visuelle que les images sacrées entretenaient avec la tradition byzantine. Par exemple, encore en 1440, l'érudit Michele Savonarole admettait qu'entre une image grecque vénérée dans la cathédrale de Padoue et sa copie par les Florentins Giusto de Menapuoi, il ne voyait aucune différence particulièrement significative. Le vicissitude sémantique du terme « icona » témoigne d'une perception qui graduellement va poser l'accent sur une interprétation en tant que portrait sacré se caractérisant par sa forme, sa matérialité et de schémas compositionnels distinctifs. Il faut rappeler que le mot grec « eikon » n'avait aucune acception particulière et signifiait génériquement « image ». Cette ambiguïté qui s'est maintenue aussi dans le néo-grec « icon » caractérisait aussi les premières attestations connues de la variante latine « icon »,« icona ». On les retrouve notamment chez Isidore de Séville comme désignation de la forme la plus simple de similitude. Et son usage dans le sens d'imago pour indiquer des images matérielles n'a paru que très lentement, même si la traduction des actes du Concile de Nicée de 787 par Anastase le bibliothécaire au IXe siècle, où les deux termes furent utilisés comme des synonymes, a dû jouer un rôle important. Plus ou moins à partir de ce moment, on le retrouva dans le Liber Pontificalis pour décrire le panneau peint de la Vierge du Christ vénéré à Rome. La signification continua cependant d'être ambiguë ailleurs. Dans la Gaule franque, comme le démontre un passage de Rémy d'Auxerre, on pouvait l'utiliser par exemple pour des reliefs en stuc. Ce n'est qu'à partir du XIe siècle que l'on trouve de témoignages du fait que les icônes étaient perçues comme des objets figuratifs typiquement grecs. Les descriptions latines de Constantinople mentionnent la présence de plusieurs icônes précieuses et d'autres commencent à être transportées en Europe occidentale. L'évêque du Mans, Hildébert de Lavardin, encore au XIe siècle, observe que les images produites par la Sapientia Graecorum, l'art expert de grec, se caractérisaient surtout par la présence de tituli. Un siècle plus tard, Hugues de Saint-Victor, dans son De Arca Noe Mystica, remarque que le Zeikonae était pleine à moitié, semi-pleine, c'est-à-dire qu'il représentait les personnages sacrés en buste à partir du nombril. Cette idée, reprise au XIIIe siècle par les liturgistes Durand de Mende et souvent citée dans les textes de la Contre-Réforme, n'associait donc pas la distinctivité visuelle des icônes avec un style halogène, mais bien avec un schéma compositionnel fréquent, mais pas normatif, de la peinture religieuse byzantine. Parallèlement à ce développement, on produisait en Occident des panneaux sur bois peints dont la morphologie, l'iconographie, en dernière instance le style, dérivaient souvent de modèles byzantins. En particulier, comme Hans Belting et d'autres l'ont souligné, on peut interpréter la maniera grecque et italienne comme le résultat d'un intérêt particulier pour l'imitation des icônes byzantines, dont la forme, le caractère bidimensionnel, les distinguant de statues qui avaient été longtemps préférées dans les cultes, étaient appréciés comme on dit d'une autorité sacrale largement reconnue. En même temps, cette peinture, génériquement inspirée par des archétypes orientaux, s'harmonisait avec une sensibilité religieuse différente et en mutation, ainsi qu'avec les exigences concrètes du culte et de la piété individuelle et collective. Cela entraîna un changement au niveau visuel qui s'acheva surtout avec l'œuvre de Giotto, mais qui n'affecta pas la perception des portraits sacrés en tant qu'icône. Pétrarque, qui appréciait les caractères innovatifs de la manière du maître florentin, n'hésita pas, dans son testament de 1370, à nommer icona l'image de la Vierge de Giotto qu'il utilisait pour sa dévotion. Il s'agissait d'une icône très particulière dont la beauté, écrit-il, n'est pas comprise par les ignorants, alors qu'elle émerveille le maître d'art. Le terme icona désigne en général une image dévotionnelle, particulièrement à destination privée, représentant des portraits de la Vierge ou des saints. Dans les inventaires vénitiens rédigés au XIVe siècle, les icône ou ancone, parfois sous forme de triptyque ou polyptyque, sont mentionnés comme des éléments incontournables de l'ameublement domestique. Ils ne contiennent cependant aucune indication au sujet d'une éventuelle origine des Romagna, des Grèces. Origine que l'on tenait par contre à spécifier lorsqu'il s'agissait des chaises ou du fameux vin de Malvoisie. En effet, la vaste production de ces tableaux, que l'on peut associer à Venise ou aux régions de la Méditerranée orientale sous domination de la Sérénissime, comprenait aussi des objets dont le choix thématique, la morphologie et d'autres éléments plus spécifiquement visuels révélaient clairement la destination à des utilisateurs latins, alors qu'ils étaient réalisés d'une manière si proche de la technique byzantine que l'on arrive même à supposer qu'ils aient été l'œuvre de peintres grecs. Des œuvres comme le diptyque Sterbini à Rome ou des motifs gothiques sont juxtaposés à des figures à l'apparence paléologue ou l'icône de la Vierge Glycophilusa du musée Benaki à Athènes, où l'image centrale est entourée par des stéatites, des médaillons dans la technique occidentale du verre églomisé, ne sont que parmi les premiers exemples connus de l'ouverture des artistes grecs, ou du moins d'artistes ayant des connaissances très étroites de la peinture byzantine, à combiner les schémas traditionnels avec des éléments de l'art italien contemporain, si cela s'avérait utile, par exemple, pour inspirer l'empathie envers les aspects les plus humains et dramatiques de personnages sacrés. Des artistes byzantins s'engagèrent en particulier à réaliser un nouveau type d'image mariale où la Vierge était représentée avec un manteau gothicisant, richement décoré, une tunique brodée d'or et un voile blanc ou transparent sur la tête, s'étendant parfois sur les épaules, remplaçant le maphorion et la coiffe traditionnelles. Ce type de représentation devint très commun dans la peinture crétoise du XVe siècle sous le nom de Madre della Consolazione. Ce mélange, qui enrichissait les schémas anciens avec des éléments provenant de la peinture vénitienne, eurent un succès tel qu'ils furent également imités par des peintres dont la connaissance de la technique byzantine était pourtant bien plus faible. Cela semble indiquer, d'une part, la confiance que l'on faisait aux peintres grecs en tant que spécialistes de la peinture religieuse sur panneau, et d'autre part, la perméabilité de celle-ci à accueillir de formes jugées utiles à renforcer l'attractivité dévotionnelle des images sacrées. Ce n'est que dans le deuxième quart du XVe siècle que l'on trouve de témoignages explicitant la perception de la différence stylistique entre les icônes grecques et la peinture vénitienne contemporaine. Dans la narration d'un épisode miraculeux ayant eu lieu en 1440, le prêtre Andrea Ingenerio, vers 1459, raconte l'histoire d'un homme de la bonne société qui refuse de payer une icône réalisée à Constantinople, estimant son prix trop élevé par rapport à sa qualité, jugée bien inférieure à celle de peinture lagunaire. L'aggravation soudaine des conditions de santé de sa femme lui fait cependant réaliser que la sainte à laquelle sa femme s'était vouée, Théodosie de Constantinople, ne lui concéderait la guérison qu'au moment où elle aurait prié devant une image à la grecque. Le texte montre que pour les Vénitiens de cette époque, les icônes byzantines n'avaient pas la même apparence que les peintures locales. Celles-ci étaient considérées plus attrayantes sur le plan esthétique, mais on reconnaissait toutefois également la plus grande efficacité des icônes grecques quant à l'évocation de la dimension divine. En d'autres termes, on assiste à une séparation fonctionnelle entre deux types d'images qui, loin de s'exclure mutuellement, pouvaient exister et être appréciées les unes à côté des autres, dans la mesure où elles satisfaisaient des exigences différentes. C'est d'ailleurs à cette époque que la production d'icônes s'intensifia et prit un caractère presque industriel. La demande sur les marchés était très élevée et la République de Venise fit tous les efforts possibles pour exercer un droit de monopole. Plusieurs ateliers furent établis à Candie où opérèrent des artistes vénitiens et constantinopolitains, décidant parfois même de partager la gestion des affaires. Les icônes de Candie furent diffusées un peu partout, en Italie comme en Espagne et dans les Flandres et jusqu'en Éthiopie. En 1436, constatant en ville la forte présence d'icônes de mauvaise qualité, faite avec du mauvais or et sans vernis, le Sénat interdit leur importation de l'étranger et imposa la seule commercialisation des icônes crétoises de extra culfum. Les images à la grecque, qui se répandirent en tant que support visuel pour la dévotion en Europe occidentale au XVe siècle, furent ainsi pour la plupart de petits panneaux peints réalisés en Crète et diffusés par Venise. Le parrain allemand Félix Fabry, en 1480, raconte le shopping à Candie comme une expérience très intéressante d'un point de vue religieux, étant donné que dans ses ateliers, on pouvait acheter des images faites à la manière de Saint-Luc. Il s'agissait d'objets figuratifs contemporains, mais basés sur des modèles anciens faisant autorité. Leur style était jugé archaïsant, mais jusqu'à un certain point. C'était encore parfois la morphologie particulière, le chromatisme et la présence de fonds en or qui l'emportaient dans la définition de ce qu'était une véritable icône. Quoi qu'il en soit, les images les plus conformes à la tradition byzantine ne remportaient souvent pas un succès majeur dans l'expérience dévotionnelle. Au contraire, parmi les icônes à la grecque, que les inventaires de la deuxième moitié du XVe siècle signalent dans les demeures aristocratiques, on remarque que la préférence allait souvent à celle qui se caractérisait par la combinaison d'éléments grecs et italiens. Plusieurs d'entre elles furent élevées au statut d'image destinataire d'un culte public, et la présence d'un manteau gothique ou d'un décor renaissant n'empêcha point qu'elles fussent perçues comme des œuvres autographes de l'évangéliste peintre. Je vous remercie.
Je remercie vivement Michele Bacci d'avoir revisité d'une façon tellement nuancée les notions d'anachronisme et d'archaïsme, qui sont des notions assez véhiculées récemment, il l'a dit d'ailleurs, dans l'histoire de l'art. Il nous a fait encore une fois penser sur le fait que les systèmes vasariens, que tout le monde connaît, tellement linéaires, avec comportant une évolution de l'art de Giotto jusqu'à Michel-Ange, avec un italocentrisme et un toscanocentrisme et un florencentrisme, doit être justement révisité. On aura le temps de discuter sur certains aspects après la pause, fait pour lequel je ne fais pas des grands commentaires pour l'instant, et j'introduis d'emblée Andreas Bayer, qui vient de l'université de Bâle. Andreas Bayer a étudié en Allemagne et en Italie, a été professeur d'histoire de l'art en Allemagne, puis à Bâle, et puis il a occupé pendant bien 5 ans, il me semble, la direction du Centre allemand d'histoire de l'art de Paris. Donc il est bien connu et bienvenu à Paris. Merci d'être revenu, Andreas, pour un certain moment. Voilà.